Europe 1, sans rendez-vous. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans Sans Rendez-vous, votre émission santé et bien-être du lundi au vendredi en direct de 15h à 16h, comme tous les jours. Dès 15h, il est à mes côtés dans ce studio pour vous faire du bien, nous faire du bien, moi aussi, hein, on a le droit.
Oui, ouais, j'ai le droit.
J'ai le droit d'écouter vos conseils. Bonjour Jimmy.
Bonjour Mélanie, bonjour à tous.
Allez, au menu du jour, et je dis menu exprès puisque l'émission du jour sera gourmande. Dans notre grand dossier, nous allons vous expliquer comment maigrir heureux quand on n'aime ni le sport ni les légumes. C'est une belle promesse. Eh bien, c'est celle de la médecin nutritionniste Laurence Plumet. Elle sera en studio avec nous pour nous livrer les secrets de son régime gourmand qui tient surtout compte de vos envies. Ensuite, dans notre chronique Les Bobos du quotidien, à l'occasion de la journée mondiale du rein, nous avons décidé de faire un petit focus sur cet organe, finalement assez mal connu du grand public. Et pour nous en dire plus sur ce dernier, ces derniers, puisqu'ils sont deux, sur comment en prendre soin au quotidien, nous aurons en ligne le docteur Sébastien Rubin. Il est néphrologue au CHU de Bordeaux. Et enfin, vers 15h50, comme tous les jours, nous retrouverons la chronique sexo de Catherine Blanc. Aujourd'hui, elle nous dira s'il y a vraiment une moyenne, un bon quota de rapports sexuels par semaine, par mois, qui permet de considérer que sa vie sexuelle est vraiment satisfaisante.
Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed vous reçoivent sans rendez-vous sur Europe 1.
Tout de suite, pour ouvrir votre magazine santé, c'est le vrai faux, vos questions au 3921 sur le répondeur d'Europe 1. Et donc, on va démarrer par cette question d'Étienne. Écoutons-la.
Bonjour Jimmy, bonjour Mélanie. J'aurais une petite question. Je suis très complexée par mon nez. J'ai une sorte de bosse au-dessus. On m'a parlé de la chirurgie avec la rhinoplastie. Moi, je me demandais, est-ce que les résultats sont garantis dans tous les cas? Merci d'avance pour votre réponse et bonne émission.
Alors Étienne, pour vous répondre, nous avons fait appel, comme à notre habitude, à un spécialiste du sujet, le docteur Bertrand Matteoli. Il est chirurgien esthétique et plasticien à Paris.
La rhinoplastie, c'est une intervention chirurgicale. Donc comme toute intervention chirurgicale, il peut y avoir des aléas, bien évidemment. Mais en règle générale, le résultat, oui, il est parfaitement garanti. À partir du moment où on examine le patient, où on a fait des photos, sur les photos, on peut avoir une bonne idée du résultat final. Une rhinoplastie, ça consiste généralement en passant par le nez, faire une sous-anesthésie générale, à enlever la bosse quand il s'agit d'une bosse, et a priori c'est le cas. Et après, on ferme les cicatrices qui sont à l'intérieur du nez, on met un plâtre, on enlève le plâtre au bout d'une semaine, et là, il n'y a plus de bosse. Mais pour avoir un résultat final, il faut compter environ un an. C'est-à-dire que le nez, il va cicatriser très doucement. Chaque mois, ça va être un peu plus fin. La peau va se rétracter très doucement, mais c'est un petit peu lent pour avoir le résultat final. Il faut à peu près un an pour avoir le résultat final. Mais dès qu'on enlève le plâtre, théoriquement, le résultat est déjà bien.
Voilà, c'était le docteur Bertrand Matteoli au micro de Valentin Piovesan. Jimmy, à présent, on va prendre une deuxième question pour vous, cette fois, celle que nous a laissée Brigitte. Écoutez bien.
Bonjour Jimmy, Mohamed et Mélanie. Une fois que l'on a fait sa deuxième injection, à partir de quand commence la protection? Quelle est la durée de la protection? Est-ce qu'on doit faire un rappel? Et est-ce qu'on doit contrôler la sérologie pour voir si on est immunisé et à quel niveau?
Merci beaucoup Brigitte pour cette question très importante. Alors Jimmy, plusieurs points dans cette question. Effectivement, pour commencer, après la deuxième injection du vaccin Covid, quel que soit celui qu'on ait fait, au bout de combien de temps peut-on considérer qu'on est protégé?
Alors on commence à être protégé déjà dès la première injection. Si on prend l'exemple du vaccin de Pfizer, on pensait qu'à 15 jours, 3 semaines, on avait 50% d'immunité. Sauf que certaines études, notamment en Israël, qui a été le premier pays à vacciner massivement et correctement, eh bien on s'est rendu compte qu'au bout de 3 semaines, on avait 90% d'immunité. Et donc après la deuxième injection, vous avez une semaine après 95% avec le vaccin Pfizer d'être protégé. À l'inverse, si on s'intéresse au vaccin AstraZeneca, eh bien dès la première injection, vous êtes protégé à 75%. C'est très bien. Et après la deuxième injection, on monte quasiment à 85%. Et surtout, c'est peut-être le point le plus important, si jamais le vaccin n'est pas totalement efficace, effectivement, on vous dit qu'AstraZeneca, c'est un peu moins bien, mais on ne comprend plus rien parce qu'on donne trop d'informations. Eh bien, si jamais vous attrapez le coronavirus, peut-être que vous ferez une forme légère et surtout, vous n'irez pas à l'hôpital et vous n'allez pas en mourir. Car l'objectif de la vaccination, c'est de l'immunité collective, mais aussi pour votre pomme. Vous avez envie, vous, d'être protégé, de ne pas en mourir. Donc, vous serez protégé, quel que soit le vaccin. Dernière information, Johnson & Johnson vient d'être autorisé notamment sur le marché européen.
L'Agence européenne du médicament.
Donc, c'est une bonne nouvelle. On espérait avoir un vaccin l'année dernière. Et bien là, on en a 4 déjà disponibles. Donc, c'est formidable.
Alors, pendant combien de temps cette vaccination, elle confère une protection? Là, j'imagine que Brigitte a eu ses deux doses. C'est peut-être un peu tôt pour le dire, mais elle est protégée pendant un an, deux ans, trois ans.
On n'a aucune idée, on ne sait strictement rien. Ouais. Je ne vais pas commencer à raconter n'importe quoi. On a dit beaucoup de bêtises. Donc, il faut avoir l'humilité de dire quand on ne sait pas. En revanche, ce qu'on peut dire, c'est qu'il est possible que pour les personnes qui ont déjà eu le Covid, une seule injection soit suffisante, car ils ont un système immunitaire qui va être un peu stimulé par cette injection du fait d'anticorps qu'on a eu par le passé. Donc, pour le moment, on se vaccine, on verra à l'automne car la question des variants va peut-être aussi redistribuer les cartes.
Donc on ne sait pas du tout, il y aura peut-être besoin d'un rappel ou alors ça sera un vaccin annuel comme la grippe. C'est pas impossible,
c'est pas
encore
impossible,
aujourd'hui.
D'autant plus que si pour l'instant les vaccins ne marchent pas trop sur le variant africain, si celui-ci devient majoritaire à l'automne, à l'hiver prochain, peut-être qu'il faudra se faire vacciner, mais on ne sait pas si ça va durer 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans.
Dernière petite question de Brigitte, elle demande s'il faut faire une sérologie après pour savoir si on a des anticorps, donc si le vaccin a marché, quoi.
Non,
j'imagine.
Aucun intérêt. Aucun vous intérêt. Allez juste avoir des prises de sang supplémentaires si ça vous fait plaisir, mais tous les labos ne peuvent pas le détecter encore, ces anticorps, et donc pour l'instant ne faites pas de sérologie. Protégez-vous et ensuite on peut créer des bulles vaccinales. Après la deuxième injection, vous pouvez vous réunir avec des personnes qui sont vaccinées sans masque, puisqu'on sait que
avec
c'est
des
le but,
rapports normaux
et avoir
comme
enfin
avant.
Une vie normale. Et c'est l'objectif, c'est retrouver un semblant de vie normale.
Très bien, merci beaucoup Jimmy. Alors si vous aussi vous voulez nous laisser vos questions au 39 21, 50 centimes d'euros la minute, surtout n'hésitez pas.
Europe 1.
Dans un instant, place à notre invité du jour, c'est le docteur Laurence Plumet. Elle vient nous présenter son régime, le premier, dit-elle, qui est gourmand et qui tient compte de nos envies. Ce qu'elle nous promet, en tout cas cet après-midi, c'est de perdre nos kilos en trop, même si on n'aime pas le sport, même si on n'aime pas les légumes. Elle va nous détailler tout ça dans quelques toutes petites minutes, alors restez bien avec nous sur Europe 1.
Sans rendez-vous sur Europe 1.
Très heureuse de vous retrouver dans Sans Rendez-vous, votre émission Santé Bien-être. Nous sommes ensemble jusqu'à 16h. Alors accueillons tout de suite notre invité pour le dossier du jour. C'est vous, docteur Laurence Plumet. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes médecin nutritionniste et fondatrice d'EPM Nutrition, école de napsothérapie. Vous êtes également l'auteur du livre dont on va parler aujourd'hui, Comment maigrir heureux quand on n'aime ni le sport ni les légumes, paru aux éditions Erol. Alors pour démarrer, docteur Plumet, pourquoi, soyons honnêtes, bon, ça va être un régime, on va le détailler bien sûr, mais pourquoi les régimes en général ne fonctionnent pas?
Alors, on estime effectivement que 80% des régimes ne fonctionnent pas, mais attention, ça n'est pas sur le court terme, c'est sur le moyen et long terme. Parce qu'un régime, quel qu'il soit, fait toujours maigrir au début. Et ensuite, les personnes qui ont repris du poids, et donc qui s'arrêtent, sont des personnes qui n'ont pas trouvé le régime qui leur convenait. Soit parce qu'il était incompatible avec la cause de leur prise de poids, soit il était incompatible avec les questions de goût, de contraintes socio-professionnelles qu'elles peuvent rencontrer, ou familiales. Et puis surtout, elles ont faim, elles sont frustrées, parce que les régimes sont sévères, évidemment, ils vous promettent de perdre du poids et rapidement.
Plus c'est restrictif, donc, plus ça marche, mais plus l'effet yo-yo
est
dur derrière.
Ben oui, et plus ça se vend aussi. Ouais. Donc, les gens le font et sont fatigués, arrêtent et puis au final reprennent du poids, voire même plus.
Et justement, vous dites qu'il faut d'abord comprendre la raison de notre prise de poids, mais pourquoi ce n'est pas les mêmes kilos qu'on a?
Alors, si, ce sont bien évidemment les mêmes kilos. Mais selon la raison de prise de poids, eh bien, il va y avoir un traitement différent. Quelqu'un qui prend du poids parce qu'il mange trop, est évident qu'un régime adapté sera la meilleure solution pour elle. En revanche, si cette personne prend du poids parce qu'elle arrête de faire du sport alors qu'elle mange parfaitement équilibré à côté, il est évident que la solution n'est surtout pas le régime, mais la reprise de l'activité physique. Une personne qui prend du poids parce qu'elle est dépressive et qu'elle prend des antidépresseurs, il ne faut surtout pas lui appliquer un régime restrictif parce qu'on va ajouter une frustration à un contexte psychologique qui est déjà fragile. Donc c'est pour ça qu'il est très important de prendre le temps d'écouter la personne, de comprendre le contexte de santé dans lequel elle évolue et les raisons pour lesquelles elle a pris ce poids, de façon à y trouver la solution qui lui conviendra.
Puisqu'on parle des causes, est-ce qu'il n'y a pas déjà l'âge, par exemple? On sait que en prenant de l'âge, eh bien, parfois on prend des kilos, surtout les femmes à la ménopause, mais peut-être que je me trompe, parce que les hommes aussi, ils ont une période comme ça de la vie où finalement, bah, c'est inéluctable, on vieillit, on grossit, quoi.
Oui, alors, les hommes ont plus de chances que nous, les femmes, c'est-à-dire que eux, la principale raison...
En général, c'est assez centré, quoi, hein, c'est le ventre, quoi.
Tout à fait, mais la principale cause quand même de prise de poids chez les hommes, c'est vraiment la malbouffe et pas bouger assez. Alors que nous, les femmes, non seulement on a effectivement ces causes-là, mais on a en plus des raisons hormonales. Parce que nous devons vivre éventuellement une ou plusieurs grossesses. Il y a ensuite la période de postpartum, l'allaitement, qui est aussi une période pendant laquelle la prise de poids est risquée. Est fréquente, et puis il y a la fameuse ménopause. Donc nous cumulons des événements qui sont à risque de prise de poids pour des raisons hormonales. Bon, et alors, vous parliez très justement de la ménopause, mais c'est vrai que quand on regarde la courbe de prise de poids, on s'aperçoit que le maximum d'obésité se trouve après l'âge de 60 ans.
Ah oui.
Autrement dit, c'est entre 60 et 70-75 ans qu'il y a le plus de gens obèses en France.
Est-ce que la période de confinement a permis justement aux gens de prendre du poids parce qu'on est stressé ou parce qu'on mange moins bien? Est-ce que le stress peut vraiment avoir une influence sur une prise de poids ?
Ah, tout à fait. Alors d'abord, le stress sur le plan hormonal, puisqu'on sait que quand le cerveau est stressé, qu'il y a de l'inquiétude, qu'il y a le manque de sommeil, le cerveau va provoquer la sécrétion de cortisol, qui est l'hormone du stress. Et cette cortisol, elle agit sur les adipocytes, en somme la graisse profonde que nous avons autour de nos viscères, et elle va en stimuler le fonctionnement. Donc les gens vont prendre
donc
du ventre.
Donc ça va, c'est le stress qui m'a fait grossir, c'est pas tout ce que j'ai mangé, c'est pas les gâteaux.
C'est pas le chocolat.
Il y a ça aussi, parce que depuis qu'il y a le couvre-feu à 18h, eh bien on s'aperçoit que les gens faisaient énormément de choses entre 18 et 20h, et que du coup, se retrouvant chez eux, ils attendent le dîner, ils ne savent plus très bien quoi faire. Donc, hop, on va ouvrir le placard, on grignote. Si on a la chance d'avoir une salle de sport chez soi ou quelque... l'idéal serait de ne pas manger, mais de brûler des calories en attendant le dîner. Mais pour beaucoup de gens, ça n'est pas la situation et donc ils grignotent beaucoup.
Moi, je mange en préparant le dîner.
Mais voilà,
quand
mais
ça, j'ai plus faim qu'arrive le dîner, mais je mange quand même.
Bah oui, du pain, du fromage.
C'est ça, exactement. Est-ce qu'il y a des médicaments éventuellement qui peuvent nous faire grossir ? Vous avez parlé tout à l'heure un petit peu des benzodiazépines, on va dire, mais est-ce qu'il y en a d'autres ?
Ah oui, alors les antidépresseurs en premier. Puisqu'on touche finalement au fonctionnement du cerveau, aux neuromédiateurs, et tout ça a été extrêmement impliqué avec les comportements, et ces gens-là qui prennent des antidépresseurs le disent très souvent, ils ont davantage faim, ils sont beaucoup plus attirés par le goût du sucre, hein, et ils mangent plus de féculents et de produits sucrés. Mais il y a aussi les bêta-bloquants qui sont prescrits chez les gens qui ont des problèmes d'insuffisance cardiaque, et il y a également un certain nombre de médicaments qu'on donne aux diabétiques. Donc effectivement, un diabétique par exemple qui est en surpoids, un diabétique de type 2 chez des gens en surpoids, eh bien on choisit le médicament qui évitera une prise de poids qui s'ajouterait déjà à un contexte.
On ne remet pas en cause du tout l'efficacité de ces médicaments. Il n'est pas question de les arrêter parce qu'on prend du poids.
S'ils sont nécessaires,
il faut les prendre. Hein, mais il y a des moyens de contrer ça peut-être.
Et puis d'abord, il faut aussi dire qu'il y a une grande variabilité d'une personne à une autre. Ouais. Avec un même médicament, vous allez avoir une personne qui va prendre du poids et d'autres pas du tout. Donc on attend de voir ce qui va se passer. Par contre, on commence à le signaler à son médecin quand on commence à prendre 2, 3, 4, 5 kilos en l'espace de 3 mois. C'est absolument pas normal. Et le médecin va essayer de trouver une molécule à peu près équivalente mais qui n'aura pas d'effet sur le poids.
Perdre du poids, c'est aussi mieux dormir, tout simplement.
Ah oui. Alors le sommeil joue un rôle très important. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'insiste beaucoup sur la prise en charge, sur la nutrition, sur l'activité et sur le sommeil. Parce que le manque de sommeil change les comportements alimentaires. D'ailleurs, tout le monde l'a expérimenté. Quand on n'a pas assez dormi, le lendemain, on a faim. On a envie de féculents, on a envie de pain et de fromage, on a envie de produits sucrés. Et ce grignotage s'explique parce que le cerveau est en situation de stress. Donc si on veut maigrir, il faut revoir son alimentation, il faut augmenter son activité physique et surtout, il ne faut pas oublier de bien dormir et de suffisamment dormir, au moins 7 à 8 heures de sommeil par nuit.
Très bien, docteur Plumet, on a bien posé les bases, vous restez avec nous.
Europe 1.
Dans ce rendez-vous, on va passer à la pratique à présent. Comment maigrir heureux quand on n'aime ni le sport ni les légumes ? Ça va parler à certains d'entre vous, j'en suis sûre. On vous dit tout dans un instant, à tout de suite sur Europe 1.
Sans rendez-vous sur Europe 1.
Nous sommes ensemble jusqu'à 16h pour votre émission Santé Bien-être, une émission sans rendez-vous. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Notre invitée, elle est toujours en studio avec nous, c'est vous, docteur Laurence Plumet. Vous êtes médecin nutritionniste et l'auteur du livre « Comment maigrir heureux quand on n'aime ni le sport ni les légumes » qui est paru aux éditions Erol Poche. Alors maintenant, on va passer à l'action avec vous. Ça y est, c'est parti, Jimmy, il est prêt. Surtout que votre promesse « sans légumes, sans sport », il adore. Hein, Jimmy, c'est vrai. Hein
évidemment,
vous êtes
j'attends,
à fond,
j'attends
hein, c'est ça. Alors pour changer durablement ses comportements, parce qu'on a compris finalement les régimes, souvent on regrossit. Enfin, dans 80% des cas, on regrossit parce que ce n'est pas adapté, parce que c'est trop contraignant. Et là, vous dites que finalement, tout ce qui est trop sévère, surtout, ça c'est très important, c'est ça qui est finalement le plus mauvais. C'est quoi ce que vous considérez comme sévère ?
Sévère, ce sont des régimes à moins de 1000 calories et qui ne sont pas du tout équilibrés.
Quand on mange 1000 calories par jour ?
Pas grand-chose.
Ouais,
voilà.
Une pomme,
très peu. Donc vous avez tout le temps faim. Donc c'est impossible de suivre un régime dans ces conditions. En plus de ça, ça entraîne nécessairement bien sûr la perte de gras, mais également de la perte
de muscle.
Musculaire.
Ouais.
Donc ça fatigue, ça carence. Donc on arrête toute activité physique si on avait eu envie d'en faire. Et donc c'est totalement contre-productif. Et on modifie nos métabolismes puisqu'on a perdu du muscle. Voilà. En gros, quelqu'un qui perd 4 kilos en un mois avec un régime très sévère, il a perdu en moyenne 2 kg de gras et 2 kg de muscle. Donc quand il va regrossir, il ne va reprendre que du muscle et il ne va pas reprendre de gras. Il reprend du gras et il ne reprend pas du muscle.
Est-ce qu'il y a une saison pour maigrir ? Souvent, on a tendance à attendre les beaux jours et en hiver, on n'est pas très motivé parce qu'on est caché derrière des gros pulls.
Quand on sent le maillot de bain arriver, hop.
Oui. Puis il y a une chronobiologie du corps humain aussi, hein, qui fait qu'en hiver, le corps a tendance à stocker quand même beaucoup plus facilement. C'est dans l'ordre des choses. Et puis en hiver, quand il fait froid, on a envie plutôt de plats en sauce. On va chercher la calorie inconsciemment. Donc en fait, l'objectif en hiver, c'est pas tellement de chercher à maigrir, mais plutôt d'éviter de grossir. Voilà. Et de garder un poids stable. Par contre, dès que les beaux jours vont arriver, le printemps et puis l'été, ça y est, la chaleur va arriver. On aura envie de légumes, on aura envie de salade composée, vous voyez, on aura envie de soupe fraîche. Et donc, inévitablement, on devrait, en théorie, manger moins de féculents et être beaucoup plus attiré par les légumes.
Docteur Plumet, pour qu'un régime marche, vous dites qu'il y a quatre grandes qualités fondamentales. On rentre dans le vif du sujet, ça y est. C'est quoi ces quatre grandes qualités?
D'abord, il faut avoir le déclic. Le déclic. Parce que ce déclic est important. Les tentations sont trop importantes autour de nous.
Moi, le déclic, je l'ai souvent quand je monte sur ma balance, hein, tous les matins, mais ça fait pas d'action derrière.
Ça, c'est un petit déclic de rien du tout, Mélanie.
Ah bon, d'accord.
Je parle du déclic profond et sincère, celui qu'on ressent parce qu'on se regarde dans la glace un jour et on se dit, c'est pas possible, je peux pas continuer comme ça, il faut vraiment que je m'y mette. Et cette fois-ci, ce sera pour de bon. Ça peut être aussi le partenaire qui le regard qui vous fait du mal. Ça peut être aussi les petits-enfants avec lesquels on joue et puis on se dit, je suis essoufflée, il faut que je profite de longtemps, il faut absolument que je me reprenne en main. Ça peut être aussi le médecin qui tout d'un coup vous dit en consultation,
vous avez du diabète.
Eh ben voilà, bientôt, et puis la fois suivante, il y aura de la tension et du cholestérol. Donc ça c'est vraiment
après il faut qu'il y ait le plaisir et pas de sensation de faim, c'est très important, pas de carence, c'est ça les trois grandes autres qualités.
Tout à fait, il faut qu'il y ait de la gourmandise, parce qu'un régime ça doit pas être un one shot, ça doit pas durer un mois, c'est impossible. Il faut presque que la personne ait la sensation de ne pas suivre de régime, mais que ce soit une nouvelle façon de manger. Donc il faut éprouver de la gourmandise, il faut pas de sensation de faim, et c'est la raison pour laquelle il faut faire des vrais repas complets et rassasiants, un bon petit déjeuner, un bon déjeuner, une collation l'après-midi et un dîner léger. Parce que la réussite, elle est là, c'est le dîner léger.
Alors votre programme, Laurence, il se fait en trois temps. Est-ce que globalement, vous pouvez nous décrire ces trois étapes?
Oui, alors, premier temps, jamais en dessous de 1000 calories, mais plutôt 1200 calories. 1200 calories par jour, ça permet de faire trois repas bien complets.
C'est une pomme en plus.
Franchement, on n'est pas très loin. Ouais. 200 kilocalories,
non. Ça compte parce que les 200 calories de plus que les 1000, eh bien, c'est la part de féculents que vous pouvez prendre à midi avec les légumes. Ce sont les deux morceaux de sucre que vous pouvez prendre dans la journée sous forme de confiture ou de miel le matin sur la tranche de pain,
en fait,
ou les carrés de chocolat le soir. Vous voyez, eh bien, ça paraît pas grand-chose, mais ça change tout. Ça change tout parce que quand on est dans la restriction en permanence, on ne peut pas suivre le régime longtemps. En revanche, quand on se fait plaisir en partageant dans son assiette du riz, des pâtes avec ses légumes, c'est quand même autre chose que de se taper des haricots verts à l'eau. Qui ne sont pas très ragoûtants. Donc là, le 1200 calories, c'est quelque chose qui va très bien. Par exemple, à une femme qui a fait des régimes toute sa vie, qui a du mal à maigrir, et donc pour laquelle il va falloir provoquer un déficit calorique suffisant pour la faire maigrir. En revanche, ça ne serait pas assez suffisant. Ce ne serait pas suffisant pour un homme, un gros mangeur, que je ne mettrais certainement pas à 1200 calories au début, parce que ça ferait un déficit calorique trop important pour lui et il ne tiendrait pas longtemps. Donc 1200 calories, c'est bien, encore une fois, il faut tenir compte de la personne que l'on a en face de soi. Donc 1200 calories, c'est un régime dans lequel on fait les trois repas et où on s'autorise des féculents à midi avec les légumes. Bon, ce 1200 calories, il ne va pas durer très longtemps. Il va durer 3 semaines ou un petit mois. Et ensuite, on va rapidement évoluer vers un 1500 calories par jour. Je rappelle que pour nous, les femmes, en moyenne, nous sommes à 1800-2000 calories par jour et un homme plutôt à 2500. Donc vous voyez que quand on est à 1500 calories par jour, pour une femme, ça fait un déficit d'au moins 500 calories par jour. Et si on y associe une activité physique et si on brûle 200 ou 300 calories de plus par jour...
Je croyais qu'il n'y avait pas de sport dans votre régime.
Oui, non, mais justement, on va y arriver. Je parle d'activité physique. Eh bien, on brûle 200 ou 300 calories de plus, donc le déficit est suffisant pour bien maigrir. Donc, on commence par 1200, on enchaîne par 1500, et puis ensuite, on perd le poids que l'on souhaite et qu'il est raisonnable de perdre, et ensuite, on stabilise à 1800. Et à chaque fois, ce sont des repas qui sont copieux et équilibrés parce que je tiens à ce que la personne n'ait pas faim entre les repas.
Très bien, on va détailler ça, docteur Plumet. On va continuer cet entretien dans quelques minutes.
Europe 1.
On revient très vite avec cette émission dans laquelle on vous aide à vous délester de vos kilos en trop. Vous en avez marre des régimes qui vous font perdre votre temps. Vous voulez comprendre aussi les raisons qui vous font prendre du poids. Nous allons vous donner de nombreux conseils encore tout en gardant le bonheur dans l'assiette. A tout de suite sur Europe 1. Vous êtes sur Europe 1 dans son rendez-vous, elle nous accompagne cet après-midi, c'est vous docteur Laurence Plumet, vous êtes médecin nutritionniste et vous nous guidez donc aujourd'hui pour maigrir même si on n'aime pas le sport et même si on n'aime pas les légumes. Alors les légumes justement, on en a quand même besoin, vous avez vraiment des astuces parce que quand on les aime pas, pour maigrir on se voit pas comment on peut faire sans légumes quand même.
Personne n'aime jamais aucun légume. En général, les crudités, on en aime quelques-unes et on aime quand même quelques légumes cuits. Peu importe si on mange toujours la même chose, il suffit de les agrémenter de façon différente. Moi, le conseil que je donne, parce que les légumes, c'est important pour le transit, il y a des fibres, il y a des vitamines, il y a des antioxydants qu'on trouve nulle part ailleurs. Et c'est très peu calorique. Et ça occupe de la place dans l'estomac. Donc, c'est important. Et donc, à chaque repas, ce que je recommande... Pour ceux qui n'aiment pas certains légumes, c'est de manger ceux qu'ils aiment.
Voilà, déjà.
En crudité ou en cuit, toujours en accompagnement dans l'assiette avec les féculents. Comme ça, ça permet de diminuer la consommation de féculents en ayant des légumes à côté. Donc c'est bon pour soi parce qu'on s'habitue finalement à aimer. Puis vous savez, quand on dit qu'on n'aime pas les légumes, c'est souvent une question de recette. Hein. Et un jour, on va trouver hop, l'ingrédient qui fait que waouh, tout d'un coup, je me mets à aimer ce légume parce que j'ai découvert une nouvelle façon de cuisiner. Très souvent, les gens qui n'aiment pas les légumes s'ennuient, ne savent pas cuisiner.
Moi, si c'est Philippe Chobès qui me les cuisine, je les mange, les légumes.
Exactement.
Il n'y a pas de problème.
Voilà, c'est tout à fait. Donc c'est important d'en manger à midi et le soir.
Et si jamais on n'a pas la possibilité d'avoir des légumes frais, est-ce qu'en conserve ou surgelé, ça marche aussi?
Ah oui, sur le plan nutritionnel, c'est quasiment la même chose dans l'assiette. Donc, ce ne sont pas du tout des produits morts. Hein, les légumes en conserve sont tout de suite conditionnés, stérilisés, ils ont perdu très peu de vitamines, on les réchauffe juste et donc, au final, dans l'assiette, ça revient quasiment au même, donc il ne faut pas s'en priver.
Bon, si on prend les diabétiques, cette population en particulier, quelles précautions prendre au niveau de leur alimentation?
Alors, les diabétiques peuvent parfois être en surpoids, diabète de type 2. Et donc, pour les faire maigrir, ce qui leur permet aussi d'équilibrer leur diabète, on va leur donner les mêmes conseils qu'à une personne qui n'est pas diabétique. Sauf que la petite quantité de sucre qu'on peut autoriser pour faire plaisir, eh bien, on ne l'autorisera jamais à jeun chez le diabétique, mais toujours au dessert du repas, de façon à ce que l'index glycémique élevé de cette petite sucrerie soit noyé dans l'index glycémique global du repas, qui sera d'ailleurs d'autant plus bas qu'il y a des légumes riches en fibres.
Je refais un tout petit peu retour en arrière, quand vous dites maigrir sans sport ni légumes, non. Ne pas faire de sport ne veut pas dire pas d'activité physique, c'est
absolument,
deux choses différentes.
Absolument, il y a des gens qui sont totalement allergiques au sport, en tout cas pour le moment, hein. Et ils le deviendront plus tard, peut-être, mais en tout cas nous avons des jambes, c'est pour que ça serve, donc marchons.
Non, si on n'aime pas courir, c'est pas grave.
Non, alors justement au contraire, les gens qui sont en surpoids, voire en situation d'obésité ne doivent surtout pas courir, c'est un stress terrible pour les articulations des genoux, des hanches et des vertèbres lombaires, donc non, pas de course, pas de jogging pour les gens qui ont un surpoids de plus de 10 à 15 kilos.
Pas en revanche, mais quoi, voilà.
En revanche, de la marche tonique, des chaussures avec une bonne semelle bien suspendue, des chaussures adéquates et on marche. Alors, si on peut, en rentrant du travail, ressortir et marcher au moins 30 minutes, 45 minutes d'un pas tonique, on revient, on est en sueur, on prend sa douche, on a vraiment le sentiment qu'on s'est dépensé. Mais pour les gens qui n'ont pas le temps parce qu'ils rentrent tard, eh bien, il faut saisir la moindre occasion au bureau, au travail, de se dépenser. Il n'y a pas de petites dépenses de calories. On monte les escaliers au lieu de prendre les ascenseurs. On va voir son collègue trois étages au-dessus au lieu de lui envoyer un mail. Eh bien, mine de rien, sur 8 heures de travail, ça peut vous avoir fait dépenser 200 à 300 calories et surtout, ça vous décolle du siège et ça vous donne envie de bouger. Et peut-être qu'à force de bouger, tant au bureau qu'en marchant et le week-end en faisant des randonnées, au moins 1h30 en famille le samedi et pareil le dimanche, eh bien peut-être qu'un jour, on aura envie de franchir le seuil d'une salle de sport parce que tout d'un coup, on se dit « Ah, ça fait du bien de se dépenser ».
Votre régime, vous disiez, donc il faut absolument privilégier 3 repas par jour, une petite collation, léger le soir. Moi, je le casse où, mon fromage que je grignote d'habitude. On peut maigrir en mangeant du fromage.
Mais bien sûr.
Et quel fromage, du coup?
Le fromage est très utile parce que c'est une source de calcium, surtout les fromages à pâte pressée cuite. Alors, il faut savoir que le soir, il faut éviter de manger gras et sucré. Donc, si vous vous régalez de fromage, une part, eh bien, ce sera plutôt à midi, plutôt que le soir. Le soir, il faut vraiment éviter, si on veut chercher à maigrir, il faut vraiment éviter de faire pain fromage et puis le petit verre de vin rouge. Désolée, mais ça, on va le réserver peut-être pour le week-end.
C'est ça, pour les jours de fête.
Manger léger le soir sous-entend peut-être aussi de bien manger le midi. Et parfois, on a tendance un peu à manger sur le pouce et à banaliser un peu ce repas en disant, bon allez, en 2-2, j'avale mon
vous
sandwich.
Vous le premier, Jimmy, je dénonce un peu,
oui.
mais c'est le sandwich rapido, c'est souvent.
C'est pour ça qu'il y a de plus en plus d'obèses. c'est parce que tout nous pousse, avec le rythme qui s'accélère, à peu manger le matin au petit déjeuner, à avoir des déjeuners qui n'en sont pas, à commencer à sentir la faim l'après-midi et à se jeter sur le repas du soir. Bon, c'est exactement l'inverse de ce qu'il faut faire. Il faut au contraire que à peu près entre 60 et 70% des calories de la journée nous soient apportées entre le petit déjeuner et le déjeuner. Autrement dit, la petite collation de l'après-midi, elle est légère, c'est un fruit ou deux, et surtout, le repas du soir, il est léger. C'est un plat principal, on évite la tonne de féculents, on mange surtout les légumes que l'on aime, avec un bout de viande, de poisson ou d'œuf, et puis on prend un petit laitage qu'on évite de trop sucrer et un fruit, on n'en dormira que mieux. On se couche donc pas trop tard, en tout cas avant minuit, et on évite de grossir, parce que je précise que c'est la nuit qu'on grossit. Hein. Et donc les gens qui font des dîners copieux sont des gens qui vont stocker la nuit. Voilà.
C'est la mode du sans gluten, hein, vous savez. Pourtant, il y a des produits, il y a même tout fait industriel maintenant sans gluten. Est-ce que si on bannit complètement le gluten alors qu'on n'a pas de raison médicale, est-ce qu'on va, on va maigrir a priori? Mais je crois que dans votre régime, ce n'est pas très recommandé.
Alors, il est un fait que le régime sans gluten fait maigrir parce que de facto, on mange moins de pain. On mange moins de biscuits, on mange moins de gâteaux.
Clairement.
Alors, bien sûr, on peut aller chercher des produits sans gluten, mais ça coûte cher, ça se trouve pas n'importe où. Donc, c'est beaucoup plus difficile à trouver que les biscuits et gâteaux sur le rayon de, hein, en grande surface. Donc, de facto, on baisse sa consommation de ces produits-là. Mais ça ne veut pas dire pour autant que les produits sans gluten soient moins caloriques. C'est simplement parce qu'on va modifier son comportement. Donc, on mange moins de féculents et moins de biscuits et gâteaux. Mais on pourrait le faire tout autant sans s'astreindre à un régime sans gluten.
Vous avez parlé d'une petite collation avec un fruit ou deux, et je crois que vous aimez bien la pomme. Les nutritionnistes, pourquoi est-ce qu'il faudrait manger des pommes?
Alors la pomme a ceci, elle a deux qualités. La première, c'est qu'elle a un goût sucré. Et ça, le goût sucré, on y tient quand on suit un régime entre guillemets. Deuxième qualité, elle est riche en fibres et elle a une chair qui est très dense et rassasiante. Donc moi, je considère que c'est un excellent fruit à condition de l'aimer, hein, encore une fois, pour l'après-midi. Parce que entre la fin du déjeuner et le dîner, il va s'écouler 8 heures. 8 heures, c'est trop. Quand l'estomac est vide, il appelle à être rempli et déclenche la sensation de faim. Donc, dans l'après-midi, vers 16h-17h, il est tout à fait judicieux de manger un petit quelque chose. Il va falloir tenir encore 4 heures jusqu'au dîner. Et pour ne pas avoir non plus trop faim au dîner, c'est la raison pour laquelle la pomme, l'après-midi, c'est très bien. Par contre, les fruits au dessert des repas, étant donné qu'on a déjà pris un plat principal assez copieux, c'est pas nécessaire de prendre un fruit très copieux. On va plutôt aller faire des fruits qui sont faciles à digérer et peu rassasiants, comme une clémentine ou un kiwi, qui auront l'avantage d'apporter beaucoup de vitamine C. Mmh.
Pour ceux qui adorent, comme moi, la charcuterie, est-ce que dans votre régime, on peut maigrir tout de temps en temps, manger un petit peu de saucisson, un petit peu de jambon? C'est quoi les charcuteries vraiment à éviter, s'il y en a?
Bon, alors, au palmarès des charcuteries les plus grasses, la rillette, 45% de matière grasse.
Ah oui, quand même.
Ah oui, oui. Ensuite, vous avez les saucissons et les pâtés qui sont à 30% de matière grasse. Ça veut dire quoi? Parce que ça paraît comme ça très bon. Ça veut dire que dans 3 tranches de saucisson, donc dans 30 grammes, vous avez 10 grammes de lipides, c'est-à-dire l'équivalent d'une cuillère à soupe d'huile petite plaquette de beurre de 10 grammes. Vu sous cet angle, tout d'un coup, on réalise que franchement, les 3 tranches de saucisson, eh ben, c'est rudement en gras. Alors, bien sûr, on a envie de se faire plaisir, et moi, ça fait partie des conseils que je donne. Pour moi, la gourmandise, c'est essentiel. Mais il va falloir composer. C'est-à-dire que si un jour, on a envie de prendre une assiette de charcuterie en entrée, on ne prendra pas de fromage au dessert, on prendra plutôt un yaourt. Vous voyez, de façon
tout est question
à
d'équilibre,
compenser.
En fait.
Exactement. Mais pour ça, il faut maîtriser le conseil nutritionnel.
Très bien. Docteur Plumet, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Et pour ceux donc, qui voudraient en savoir plus, je rappelle votre livre « Comment maigrir heureux quand on n'aime ni le sport ni les légumes » paru aux éditions Hérole Poche. Merci encore.
Merci.
Dans un instant, notre chronique Les Bobos du quotidien. À l'occasion de la Journée mondiale du Rein, nous avons décidé de faire un petit focus sur cet organe, finalement assez mal connu du grand public. A tout de suite sur Europe 1.
Sans rendez-vous sur Europe 1.
Votre émission Santé, Bien-être, Sans rendez-vous, c'est tous les jours de 15h à 16h. Et à présent, à l'occasion de la Journée mondiale du Rein, nous avons décidé de faire un petit focus sur cet organe, finalement assez mal connu du grand public. Alors pour cela, nous accueillons en ligne le docteur Sébastien Rubin. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes néphrologue au CHU de Bordeaux et on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Les reins, finalement, ce sont deux organes qui sont très mal connus du grand public. Est-ce que vous pouvez nous rappeler rapidement leur rôle ?
Alors oui, il faut se rendre compte du caractère absolument merveilleux des reins. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il faut en prendre soin. Alors nos reins ont beaucoup de fonctions. Alors notamment celle d'éliminer les déchets de notre organisme. Mais une autre fonction mal connue, c'est de participer à garantir notre liberté. Si vous pouvez manger ce que vous voulez au moment où vous le souhaitez, c'est grâce aux reins. Par exemple, vous n'êtes pas obligé pour survivre de compter la quantité de potassium, de sodium, de calcium de vos aliments, car ce sont vos reins qui font ce travail-là, en adaptant leur fonctionnement en permanence à vos besoins et à votre alimentation.
Donc, quasiment deux ordinateurs des deux côtés, c'est ça?
Ah oui, des millions d'ordinateurs intégrés dans le rein. Oui.
Et justement, docteur Rubin, comment est-ce qu'on sait si on a des problèmes de rein, est-ce qu'on a des symptômes et ça touche combien de personnes en France ?
Alors, on estime à environ 6 millions en France, hein, le nombre d'adultes atteints d'une maladie rénale. Alors cela va du stade précoce, donc sans symptômes, le plus souvent. Et c'est d'ailleurs tout le problème, puisque alors que le patient ne souffre de rien, c'est à ce stade-là qu'il faut agir pour éviter que la situation ne se dégrade. Et si elle se dégrade, cela peut aller jusqu'au stade les plus sévères, où le rein ne fonctionne alors plus du tout. Et c'est à ce moment-là que l'on peut proposer la greffe ou la dialyse. On compte 40 000 greffés en France et environ 50 000 patients dialysés. Mmh.
Certains se demandent peut-être pourquoi c'est si grave finalement de souffrir d'un problème de rein, d'un rein, puisque finalement on en a deux. Est-ce que c'est si grave d'avoir un rein malade, puisqu'il y a l'autre qui peut peut-être suppléer quand même ?
Alors, en fait, quand on parle de maladie rénale chronique, c'est les deux reins hein, qui sont atteints en même temps. Donc le fonctionnement global des reins s'altère. Et quand les reins n'arrivent plus à correctement éliminer les déchets, donc on appelle ça les toxines, elles s'accumulent dans le sang. Alors au début, on ne ressent pas les toxines s'accumuler, donc la maladie est sans symptômes, mais elles vont très vite devenir dangereuses pour nos vaisseaux en accélérant leur vieillissement. Cela a pour conséquence d'augmenter le risque d'infarctus ou d'accident vasculaire cérébral.
Et justement,
et puis, comment est-ce qu'on fait plus avancé.
Et avant d'arriver là, parce qu'on a dit le but c'est la prévention, on vous l'a dit, c'est formidable, mais comment est-ce qu'on fait au quotidien pour prendre soin de ses reins ?
Alors, il y a quelques règles d'or pour prendre soin de ses reins. Alors, j'adhère tout à fait au message qui était donné il y a quelques minutes par votre invité. Il faut bouger, lutter contre la sédentarité, privilégier la marche à pied ou le vélo quand on se déplace. La seconde règle, c'est de manger sainement également, hein. Éviter les excès, manger des fruits et des légumes à volonté, faire attention au sel. Alors, le sel, c'est toxique pour le rein quand on en prend à des trop fortes quantités. Et il n'y a pas que le sel de table, hein. Il y a le sel caché dans les aliments. Par exemple, la charcuterie, les gâteaux apéritifs contiennent beaucoup de sel. Mmh. Et puis après, il y a d'autres petites choses simples. C'est éviter les épisodes de déshydratation. C'est particulièrement vrai pour les plus âgés d'entre nous, puisque en vieillissant, on perd la sensation de soif. Et donc, il ne faut pas hésiter à entretenir, enfin à boire 1,5 litre d'eau par jour, voire plus dans les périodes de grande chaleur. Et puis ensuite, il y a trois petites choses. C'est vérifier votre taux de sucre dans le sang, puisque si vous êtes diabétique, vous êtes à risque de développer une maladie rénale. Vérifiez votre pression artérielle. On recommande d'avoir moins de 14 de tension. Si vous avez plus de 14 de façon régulière, vous êtes peut-être hypertendu et cela est dangereux pour vos reins. Et enfin, arrêtez de fumer si vous fumez et se faire aider pour cela. On sait combien le tabac est toxique pour vos vaisseaux et aussi les vaisseaux dans le rein.
Très bien. Merci beaucoup, docteur Rubin, d'avoir été avec nous pour cet éclairage donc sur cet organe finalement pas si bien connu que ça. Bonne continuation.
Europe 1.
Dans un instant, la dernière partie de cette émission. Vous êtes avec nous jusqu'à 16h et restez surtout car juste après, on se retrouve pour la chronique sexo de Catherine Blanc. A tout de suite sur Europe 1. La santé, le bien-être et la sexo, c'est sur Europe 1. Nous sommes avec vous depuis 15h, toujours à mes côtés, bien sûr, le docteur Jimmy Mohamed. Et c'est Catherine Blanc qui fait son entrée dans ce studio. Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Catherine, aujourd'hui, il va falloir répondre à la question d'Ingrid. Il m'arrive de faire l'amour deux fois par jour et parfois, je peux m'en passer pendant plus d'une semaine. Je me questionne donc à savoir à quelle fréquence devons-nous faire l'amour. Je vois venir déjà, Catherine, on doit rien du tout, hein, je suis sûre.
Bah déjà, Ingrid, ce n'est pas une question, c'est une réponse. On fait l'amour comme on veut. Et effectivement, il y a des moments où notre libido est particulièrement émoustillé, peut-être ou par anxiété, en fait, hein, parce que tout d'un coup, on a des besoins de rassurance, ou alors par liberté, au contraire. Et du coup, on pourrait le faire une fois, deux fois, ou tout simplement...
Il y a bien des moyennes, Catherine, quand même. On aime bien quelques chiffres. Allez, dites-nous.
Ben non, mais ça dépend. Je ne sais même pas quel âge a Ingrid, mais je pense que si on regarde la moyenne en France, enfin, en tout cas, toute génération,
quoi,
on va se dire...
Semaine, non.
Bon, je pense que là, c'est pour la sexualité très active, des gens très actifs. Mais si on met les très vieux et les tout jeunes qui mettent un certain temps à se mettre en couple, on est plutôt à une fois par semaine. Mais donc, c'est pas grave.
Elle nous a donné un chiffre, Jimmy. Une fois par semaine.
Mais enfin, ce sont des chiffres de Catherine Blanc. Allons voir les vraies études. Parce qu'on
parle de besoin. Quand on parle d'alimentation, on a besoin de 2 à 3 repas par jour, de 8-9 heures de sommeil par nuit. Mais est-ce qu'on a des besoins réguliers pour permettre d'avoir une vie équilibrée, notamment de rapports sexuels ou même tout simplement de masturbation? Ce qui veut donc dire que quand on n'a pas ces rapports sexuels, est-ce qu'on peut se sentir un peu moins bien, un peu frustré, ou peut-être même un peu moins performant intellectuellement, parce que perturbé par ce manque
de sexualité?
En fait, ce n'est pas un besoin au sens vital du terme, mais nous avons besoin de nous exprimer, nous avons besoin de nous rassurer quant à nous-mêmes, quant à la valeur que nous avons pour l'autre. C'est une occasion pour les hommes aussi d'expulser parfois une tension qu'ils mélangent avec leur sperme et la tension de leur verge.
Ce serait un truc uniquement masculin, non, ça, de se déstresser avec la sexualité?
Non, mais les hommes, il y a une idée d'expulsion. Mmh. Encore que l'expulsion pour les femmes, elle existe aussi au travers du cri, du souffle. Et à ce niveau-là, c'est extrêmement apaisant, indépendamment de ce que nous vivons ou ne vivons pas en termes d'érotisme réel et de plaisir réel. Donc, le besoin, c'est difficile de définir de quel besoin nous parlons. Un besoin individuel pour soi, pour se libérer de ces tensions, un besoin parce qu'on a besoin d'être rassuré quant à l'amour que l'on nous porte, un besoin pour prouver notre compétence, affirmer notre domination. Donc finalement, vous voyez que derrière ce terme besoin, ce ne sont pas que des choses très clean, ce sont des choses très narcissiques. Donc quel est le rythme par rapport à tout ça? Parfois, c'est besoin de rappeler à l'autre que je suis son ou sa partenaire. Et au milieu de tout ça, il y a une relation qui s'écrit, qui se stimule, et on ne devrait s'intéresser finalement beaucoup plus qu'au plaisir qui est issu de cela, c'est-à-dire qu'on converse, on converse, et on a envie de rire ensemble, on a envie de jouir ensemble, et la sexualité est à ce rendez-vous. Et donc, effectivement, à ce titre, on peut le faire une fois, deux fois, et trouver ça absolument délicieux. Mais si on le fait deux fois ou par jour, et ceci tous les jours, ou trois fois par jour, on a du mal à penser à autre chose.
J'allais dire, puis la qualité ne doit pas être au rendez-vous quand même à chaque fois, parce que quantité et qualité, c'est pas la même
ça
chose.
Ça dépend, il y en a qui sont très très doués pour faire vraiment
un par jour tout satisfaisant.
Ça
ben,
peut
c'est
être,
bien.
Oui, mais peut-être pas sur le long terme, parce qu'à un moment donné, quand même, c'est un peu redondant. Mais en tout cas, ils peuvent être tout à fait très tranquilles et très très doués pour cela. Ceci étant, ça évite quand même, ça prend beaucoup de part de préoccupations personnelles. Ça évite un peu de travailler, ça invite un peu d'élaborer, de créer, etc. C'est dommage parce que nous avons des tas d'autres choses à créer aussi.
Vous parlez de préoccupations personnelles. Est-ce qu'avec la période de Covid, on peut voir sa libido augmenter ou au contraire diminuer? C'est-à-dire qu'on n'est pas tous tristes et forcément sans libido?
Ah non, bien sûr, au contraire. Là,
ça se passe comment en consultation chez Catherine Blanc en ce moment?
Alors, ce sont, en général, vous savez, ceux qui m'appellent sont plutôt parce qu'ils en ont, ils sont en difficulté.
Oui,
alors, il y
sûr.
En a toujours un qui n'est pas au rythme de l'autre, bien évidemment, où ils sont surtout en manque de tendresse, presque plus que de sexualité en réalité, parce qu'ils ont besoin d'être touchés. Parce que, rappelons-le, la sexualité, avant d'être une performance physique, jouissive, orgasmique, c'est aussi une occasion de caresse interne et externe, ne négligeant pas les caresses externes qui sont absolument indispensables pour fabriquer de l'ocytocine, pour fabriquer des endorphines. Donc vraiment, qui me permettent, l'ocytocine, c'est l'hormone de l'attachement, mais c'est aussi celle qui permet la confiance en l'autre, du coup par voie de conséquence en soi. Donc c'est vraiment très important de se dire que la sexualité est à des tas d'autres rendez-vous que la performance de jouissance. Donc en ce moment, effectivement, pendant le confinement, il y en a certains qui ont plutôt eu tendance à être de plus en plus déprimés, dépressifs et qui se sont peut-être jetés sur des substituts que sont l'alcool, la nourriture, etc., pour trouver des palliatifs à ces manques. Mais certains, du coup, ont cherché dans la sexualité, sauf que c'est difficile quand on tourne en rond dans un même espace de continuer à être très créatif. Évidemment, il y a souvent un décalage au sein du couple.
Merci beaucoup, Catherine, pour tous ces conseils. Cette émission est terminée. On vous donne rendez-vous, bien sûr, demain, dès 15h.